Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what, I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar.
I'm so happy.
J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Lebas sur Clé de voûte. Stéphane est un des piliers de la scène produit française. Il démarre sa carrière chez SFR, où il évolue sur différents postes produits au moment de l'explosion des services sur fixe et mobile. En 2013, il a l'opportunité d'entreprendre et lance sa première start-up spécialisée dans l'analyse de données des opérateurs mobiles qu'il revend un an plus tard. Suite à cette aventure, Stéphane va enchaîner les postes de product leader dans des boîtes françaises renommées. Mythic, Betclic, Malt, Care et depuis tout récemment, Adeo. Stéphane vient sur Clé de voûte creuser son parcours et ses challenges vécus pendant ses 20 années de produits. En deuxième partie d'épisode, il nous explique comment scaler un produit dans un contexte multi-pays avant de nous livrer sa méthodologie pour faire évoluer le pricing d'un produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, let's go pour cette troisième partie, Stéphane. Quel sujet tu veux évoquer ici ?
Un de mes sujets de prédilection, c'est le sujet du pricing et du pricing des services digitaux. Je pense que c'est un sujet essentiel quand tu fais du produit. Et c'est un sujet qui est sous-coté. Donc moi, plusieurs fois dans ma carrière, j'ai eu des discours un peu lunaires avec des product managers et puis des équipes tech qui considéraient que le Graal, c'était de travailler sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et que travailler sur des sujets de pricing, amélioration de la marge, paiement, c'était le mal absolu.
Sujet business, quoi.
Ouais. Ça vient un peu de... Je ne sais pas si tu te souviens un peu de ce mantra de Google qui disait on se concentre sur l'expérience utilisateur et puis le business model, on verra plus tard.
Ça suivra, quoi.
Voilà. Mais ça, c'était Google. Tu vois, ils peuvent se permettre de perdre 1 ou 2 milliards dans différentes initiatives. Tu regardes le compte d'exploitation d'Alphabet. Tu vois, c'est pareil, pour le coup, là, c'est lunaire. Mais dans la vraie vie, tu ne peux pas faire abstraction de la performance économique de ton produit, la manière dont tu contribues aux revenus de ta boîte. Soit ton produit il contribue réellement à la valeur et c'est un produit core, soit ton produit ne contribue pas et c'est juste un hobby, quoi. En fait, tu bosses juste sur un truc qui n'a aucune importance et il faut te poser les bonnes questions, quoi. Mmh. Donc il y a des boîtes qui peuvent se permettre des fois de faire ça, mais en général, ça ne dure pas très longtemps.
C'est clair.
Donc ça, c'est vraiment toujours un sujet sur lequel j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'intérêt des équipes produits.
Quel angle tu veux prendre pour attaquer ce sujet, qui est un sujet qui est technique en plus ?
Alors, juste pour continuer sur la partie, donc ça c'est pourquoi ce sujet m'intéresse, pourquoi c'est important d'en parler ? Premièrement, il y a une question un peu conjoncturelle, c'est-à-dire que, comme tu l'as évoqué d'ailleurs dans un épisode récent avec Fabrice Demazeri, sur le ROI du produit, en fait, avec la conjoncture actuelle, ça devient essentiel de travailler la monétisation de ton produit. Pas mal de startups sont passées d'une logique de on finance la croissance à on doit faire de la croissance rentable ou juste de la rentabilité tout court.
Très vite, quoi.
Donc, c'est un sujet d'actualité. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, il y a plein de product managers qui ont vu leur roadmap chambouler. On leur a dit, bon voilà, t'arrêtes toutes les innovations et tu te concentres sur la monétisation et la rentabilité de ton produit. Et puis après, tu as un sujet de fond intellectuel, d'intérêt intellectuel. Ce sont des sujets qui sont vraiment challenging au sens où tu dois t'adapter à des contraintes légales. C'est un sujet technique parce qu'effectivement, tu as des sujets de moyens de paiement. Tu as des sujets de UX sur comment tu intègres tes paywalls, tes pages de paiement. Tu as des sujets de d'expérience globale, tu as des sujets de rétention, tu as des sujets de modélisation d'offres. En fait, c'est un domaine qui intellectuellement est hyper, hyper riche. Et c'est un domaine sur lequel tu n'as pas des choix qui sont des choix binaires. Je prends un exemple concret. Si tu regardes par exemple la conversion et le revenu, la marge que tu fais. Si tu augmentes tes prix sans rien faire d'autre, tu vas baisser ta conversion. Donc, il y a des moments où ça va être globalement positif, puis il y a des moments où ça va être globalement négatif. Si tu rajoutes des features sans bouger le prix, tu augmentes la valeur, donc tu vas potentiellement augmenter ta conversion, mais tu vas diminuer ta marge, parce que tu as donné plus.
Pour faire d'investissement.
Voilà. Et donc en fait, tu as l'impression que dès que tu joues sur un levier, en fait, tu perds sur un autre...
Tout bouge, quoi.
Voilà. Et en fait, il y a des exemples où tu peux réellement, moi je l'ai connu chez Mythic, tu peux réellement gagner sur tous les tableaux. Chez Mythic, on a mené des projets où on a réussi à augmenter la conversion, augmenter le revenu moyen par utilisateur, augmenter la marge, tout ça en même temps. Donc, et arriver à ce type de résultat, intellectuellement, c'est hyper, hyper satisfaisant et tu es obligé de mettre en œuvre des compétences, encore une fois, data-centrique, UX, technique, d'alignement avec la value proposition de la boîte, d'alignement avec les campagnes de com. Donc c'est ça qui je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup plus intéressant que juste se dire on va fluidifier le parcours d'inscription qui est un truc assez binaire quoi. Une fois que tu as trouvé les pain points et les endroits où il y a de la friction, tu sais que tu vas améliorer ta conversion sur l'inscription de X points. Mais c'est simple, on va dire, c'est des problématiques simples. Donc je pense que les product managers devraient justement aller rechercher des problématiques qui, sont plus compliquées et sur lesquelles, en plus, ils auront une contribution qui sera plus forte en termes de création de valeur, ce qui leur permettra d'être davantage reconnus dans la boîte.
Eh bien écoute, let's go, tu nous as assez teasé, je pense, sur le sujet. On a compris son importance. Comment tu veux l'adresser ?
Alors moi, je voudrais concentrer vraiment sur la partie tester, quand tu testes le pricing. Donc tu veux faire évoluer le pricing de ton service, comment tu vas le tester ? J'ai eu à mener ce projet-là chez Care il y a quelques mois et je me suis rendu compte que les équipes que j'avais en fait ne l'avaient jamais fait. Ils ne savaient pas comment faire, les équipes data et les équipes produits ne savaient pas comment tester un nouveau modèle de pricing sur un service.
Okay.
Donc moi, c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps à justement reformaliser quel était un peu le process, on va dire, et la méthode pour faire ce type de test. Donc là, en quelques minutes, pour résumer un peu les différentes étapes, tu as le premier point qui est assez basique, qui est de faire un questionnaire utilisateur. Parce qu'en fait, tu te lances pas directement dans un A/B test avec deux ou trois niveaux de prix. Hein. D'abord, il faut essayer de cadrer un peu le sujet. Et donc, au-delà de la compréhension de ton business model, ta structure de coût, ta value proposition, il faut d'abord segmenter les utilisateurs. En fait, une partie de la réponse vient du fait d'arriver à différencier tes personas et ton audience, et notamment de le faire sur deux axes. Un axe qui est la capacité à payer. Donc en fait, tu as une relation directe entre ta conversion, le niveau de pricing que tu vas pouvoir appliquer et les moyens de tes utilisateurs. Hein. Quand j'étais dans le dating, tu avais une courbe de la conversion en fonction de l'âge. Et donc c'était à zéro en dessous de 18 ans. Ça augmentait entre 18 ans et 27 ans. Et puis ensuite, à partir de 27 ans, c'était en plateau, parce que là, les gens, ils avaient un job, et puis ils étaient prêts à payer, quoi. Et c'était vraiment mathématique, hein. Il y a eu des bouquins sur le sujet aux États-Unis de la part du fondateur d'OkCupid, qui était un data analyst.
Aussi d'une appli de dating, mémoire, hein, OkCupid, non ?
Pardon ?
OkCupid, c'est pas aussi une appli de dating ?
Oui, c'est une appli de dating qui faisait partie du même groupe. Et eux, un des fondateurs avait publié un bouquin avec toutes les datas et tous les insights.
Incroyable.
Qui est un bouquin vraiment intéressant. Et donc voilà, donc typiquement, l'âge, en termes d'infos socio-démo, te donne une indication hyper claire sur la capacité des gens à payer. T'en as plein d'autres.
Juste une question, Stéphane, parce que t'es rentré très vite dans le sujet. Est-ce que ce que tu es en train de dire là est valable aussi bien pour des modèles B2C que du B2B, selon toi, en termes de strat, de pricing ?
Oui, sur cette partie-là, sur cet aspect-là...
Tu penses que c'est valable sur les deux ?
Oui, le fait d'identifier des personas, c'est valable sur les deux.
Okay.
Après, ta capacité à payer, elle est différente, puisque là, c'est la
Bien
société
sûr.
Qui... Mais...
En tout cas, la strat là, que tu déroules pour bosser sur ce test de pricing, tu penses que c'est aussi bien valable sur du B2B que du B2C ? Quelqu'un qui écoute... Ouais, dis-moi.
Pas sur toutes les étapes, parce qu'en fait, en B2B, tu vas avoir beaucoup moins de volume. Donc, ouais. En fait, toute la partie test, ensuite, AB test, tu ne pourras pas la faire sur le B2B. Donc,
hyper clair.
Là, je pense que c'est vraiment, à la réflexion, ce que je te dis, c'est vraiment centré sur le B2C.
B2C. Donc, inspiration à prendre pour les gens qui seraient en train d'écouter le podcast et qui viennent du B2B. Inspiration à prendre et peut-être des bonnes idées. Mais attention, le mode opératoire, compte tenu du volume de gens qu'on fait rentrer dans le process, est un peu différent, quoi.
Ouais, à différents niveaux, c'est ouais, je pense que c'est. Mais moi, mon expérience, elle est vraiment B2C sur B2C, la partie. Ouais.
Très clair. Hyper clair. Ok, donc une fois qu'on a pris en compte la capacité à payer.
Capacité à payer. Et l'autre critère, pour juste en prendre deux, c'est ce qu'on appelle en anglais l'intent to pay, c'est ton intention. Et en fait, arriver à comprendre le niveau d'intention de l'utilisateur, c'est clé. Je reprends l'exemple de Mythic parce que c'est mon exemple le plus.
On peut suivre celui-là si tu veux. Hein. Ça va parler à tout le monde.
Voilà, qui est le plus comment dire, qui est le plus pertinent, on va dire. À l'époque, on a inventé une stratégie de pricing qu'on appelait le pricing adaptif, qui permettait en fait d'adapter le prix. Alors sur des critères objectifs comme l'âge, le sexe, etc. Mais aussi sur le canal d'acquisition. Donc en fait, quand tu venais de Facebook, tu avais cliqué juste sur une pub, tu avais une intention de convertir qui était moins forte, donc on te présentait des prix qui étaient plus bas, et tu avais des discounts plus rapidement. En tout cas, ça c'était à l'époque, hein, ça a changé, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et quand tu avais vu une pub à la télé et que tu venais en direct, en tapant Mythic dans ton moteur de recherche, ou en tapant directement Mythic l'accès direct au site, tu avais une intention d'acheter et convertir qui était plus forte. Mmh. Donc là, tu avais des prix plus élevés et des discounts moins rapides.
Mmh, okay.
Et donc, on adaptait le prix en fonction du canal d'acquisition qui traduisait, qui était un proxy de ton intention de payer. Et en faisant ça, tu gagnes sur les deux tableaux. C'est-à-dire que les gens qui sont prêts à payer, tu leur mets des prix plus élevés. Et les gens qui ne sont pas prêts à payer, ben, tu mets des prix moins élevés et donc tu augmentes la conversion. Donc
c'est là qu'on commence à avoir un lien quand tu disais tout à l'heure qu'on peut gagner sur tous les tableaux.
Exactement.
Okay.
Et donc ça marchait tellement bien que les gens ne le savent pas, mais quelques années plus tard, quand Tinder est passé payant, parce que ouais. Tinder faisait partie du même groupe, et on les aidait aussi.
Le Match Group, du coup.
Exactement. Tinder a adopté ce pricing adaptif.
Okay.
Et a réutilisé une technique qui avait été inventée, entre guillemets, en France. Et tu sais que les Américains n'aiment pas forcément reconnaître qu'ils sont allés chercher des idées de ce type-là en France. Mais là, sur le pricing, pour le coup, c'était une vraie innovation. Des équipes mythiques.
On a remonté face à Arcos et Apple pour une fois, ça y est.
Ouais, et pour faire le lien avec les télécoms, c'est que l'équipe qui s'occupait du pricing de Mythic, hein, c'était Martin Bertoneau, qui est devenu CPO du Bon Coin et qui est maintenant CPO à Devinta, et qui venait de chez Bouygues. Moi, qui venais de chez SFR, et puis Romaïssa Cherbal, qui est aussi directrice produit chez Le Bon Coin, qui venait aussi de SFR. Et donc, on avait tous été biberonnés, on va dire, par toutes les stratégies pricing opérateurs. Donc, depuis, on est passé sur des modèles illimités à l'abonnement très simples, mais dans les années 2000, il y avait un foisonnement de modèles tarifaires chez les opérateurs. Et donc, nous, on a appris aussi chez les opérateurs mobiles.
Super intéressant. Je ne connaissais pas cette anecdote. Super. Très bien. Alors, donc, après l'intention de payer.
Ensuite, il y a la question la question clé de comment tu testes la sensibilité au prix,
ouais.
et comment tu prépares, on va dire, l'AB test que tu vas faire après. C'est ça l'objectif de ton questionnaire. Hein, le vrai objectif concret, c'est de se dire quels sont les prix que je vais tester. Et pas partir juste au hasard.
Tout ça, c'est dans le questionnaire, hein, pour resituer
ouais.
quand même. On est toujours en train de créer le questionnaire et d'aménager des questions pour tester toutes les variables que Stéphane vient d'évoquer.
Exactement. Et donc, pour savoir quel est le prix optimal, tu ne peux pas uniquement poser la question en déclaratif, quel prix êtes-vous prêt à payer ? Donc pour ça, tu as une technique qui est à la fois simple et qu'il faut connaître, c'est que tu poses les questions de manière un peu différente. Tu commences par demander quel est le prix qui te ferait renoncer à accéder au service.
Mmh.
Donc ça va te permettre de donner un peu ta barrière haute. Ensuite, tu poses la question de quel est le prix qui te ferait hésiter. Et puis la dernière question, c'est quel est le prix idéal pour toi, pour ce service. Donc le prix qui te fait renoncer, c'est vraiment ta barrière haute. Donc ça sera le prix le plus élevé que tu vas mettre dans ton A/B test. Le prix qui te fait hésiter, c'est le prix du milieu. Et le prix le plus bas, c'est pas le prix idéal, c'est la moyenne entre le prix idéal et le prix qui te fait hésiter.
Okay.
Donc tu corriges le côté déclaratif où les gens vont sous-estimer le prix qu'ils sont prêts à payer. et tu fais la moyenne.
Okay.
Et donc, en faisant ça, avec ces trois questions, tu as trois points qui te donnent les trois prix à tester dans ton A/B test.
Dans une campagne d'A/B test, ensuite.
Voilà. Okay. Sachant que tout ça, tu le corriges en fonction de tes personas utilisateurs. Si tu ne peux pas identifier tes personas sur ton produit, tu es obligé de faire une moyenne un peu de tout ça, quoi. Et donc, toujours dans cette catégorie du questionnaire utilisateur, tu as une dernière type de question qui est importante, c'est le naming de ton offre et le storytelling. Donc, ce que j'appelle le storytelling, c'est vraiment expliquer pourquoi le prix est à ce niveau, qu'est-ce que tu mets derrière. Donc, typiquement, nous, quand on a fait ce projet chez Care, on a introduit des frais de service. Et donc, on a testé différents noms, frais de service, frais de fonctionnement, tout un tas d'options. Et puis ensuite, on a expliqué qu'est-ce qu'il y avait derrière ces frais de service. Et donc, on avait testé différentes visualisations où tu expliquais que tu payais le service client, les équipes produits et tech, des frais bancaires. Et donc, on a testé différentes décompositions de ce prix qui racontent toute une histoire différente. Et on a choisi la manière de le présenter qui correspondait le mieux aux attentes utilisateurs.
Toujours dans le questionnaire, ça, hein, tu le fais.
Voilà.
Okay.
Une fois que tu as fini ça, tu sais un peu quelle peut être la UX que tu vas tester, le naming, le storytelling, les trois niveaux de prix. Et donc, tu lances un A/B test. Alors, en général, tu as trois prix. On appelle ça un test de prix multivarié. Et ce qui est toujours hyper important, c'est de garder une cohorte à zéro. Donc en fait, tu gardes une cohorte de référence. Donc ça, c'est le premier point. Donc tu testes, t'as quatre populations différentes. Et puis, ce qui est important, c'est d'essayer d'éviter tous les biais. Donc en général, tu vas faire ce test uniquement sur les nouveaux utilisateurs. Les anciens utilisateurs qui ont été exposés soit à l'ancien pricing, soit à pas de pricing du tout, eux, ils sont biaisés. Donc en fait, il faut bien faire attention quand tu fais ce test-là, de le tester uniquement sur les nouveaux pour débiaiser. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est de travailler tes tactiques de monétisation. Ce que j'appelle les tactiques de monétisation, c'est deux choses. C'est un, à quel moment tu déclenches la demande de paiement, le paywall, comme on dit en anglais. Est-ce que tu déclenches au bout d'une certaine période? Est-ce que tu le déclenches sur certaines actions? Donc ça dépend en général de la manière dont tu as structuré ton offre. Est-ce que tu fais du freemium ou pas? Est-ce que tu fais du trial?
Du reverse freemium.
Voilà. Tu as tout un tas de techniques. Donc ça, c'est vraiment la partie trigger. Et puis après, il y a la partie UX. Donc comment tu présentes une page qui propose différentes offres. Donc là, typiquement, il y a plein de littérature sur le sujet. Il y a même des sites qui présentent plein d'exemples de red card, comme on dit, de pages de paiement pour avoir des inspirations.
T'en auras peut-être qu'on pourra joindre peut-être à la newsletter du podcast.
Ouais, tout à fait. Ouais.
On joindra ça directement.
Et puis il y a des bonnes pratiques, donc typiquement je ne l'ai pas dit, mais sur la structure des offres, il faut toujours avoir trois offres, plus éventuellement une trial, pour justement permettre à ceux qui ont peur de s'engager de tester, pour augmenter la conversion. En général, tu fais trois offres, et puis bien sûr c'est l'offre du milieu qui va être la plus souscrite, et c'est en général sur cette offre-là que tu fais le plus de marge, donc c'est là où tu dois cibler le mieux ton gain de marge, on va dire. Et les autres offres étant là pour forcer les gens à se mettre sur l'offre du milieu. C'est la fameuse
c'est Starbucks, non
tactique du vin aussi au restaurant.
Où t'as
des vins très chers, des vins très peu chers. Et puis comme tu veux pas faire le radin, tu prends les vins du milieu, quoi.
Ouais, bon, c'est le Starbucks. Pourquoi? Parce que on a souvent les trois formats. Tall, je connais plus grande, et je sais plus exactement quelle taille, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne.
Voilà. Donc ça fonctionne sur tout un tas de
sur du soft
aussi. C'est du nudge classique, quoi. Ensuite, il y a un dernier point qui est hyper important, c'est la définition du plan de lancement. Donc en fait, quand tu vas introduire un nouveau pricing, tu peux pas l'introduire de manière brutale. Donc en général, il y a quelque chose qui est assez utile qu'on appelle le Godfathering, c'est-à-dire en gros, tu annonces à tes anciens utilisateurs que le prix va changer, mais que pour le récompenser de leur fidélité ou pour tout un tas de raisons, eux, ils vont encore bénéficier de l'ancien prix pendant 6 mois et que tu leur appliqueras les nouvelles conditions que plus tard. Et donc, en faisant ça, tu reconnais la valeur d'être un client existant, tu les fidélises et en général, le gain par rapport à la perte potentielle de chiffre d'affaires, il est largement positif.
La transition est plus fluide et mieux adoptée, en tout cas mieux accueillie par les utilisateurs.
Exactement. Plus tard, ça, c'est un exemple sur les utilisateurs existants. Mais de toute façon, ton plan de déploiement, y compris sur les nouveaux, doit vraiment être réfléchi. Tu dois vraiment travailler la communication sur différents canaux. Pas partir du principe, parce que tu as envoyé un mail pour dire que tu as de nouvelles conditions et de nouveaux pricing, que les gens l'ont vu et l'ont adapté. Quoi.
Et anticiper un churn, j'imagine, le cas échéant, si tu es sur en plus un marché où il y a beaucoup, beaucoup de guerre des prix, j'imagine, non ?
Ouais, ou des discounts, tu vois, les gens qui vont appeler le service client pour plaindre ou faire part de leur incompréhension. Donc tu dois prévoir aussi la politique commerciale associée.
La suite, ouais.
Donc voilà, c'est pas uniquement, je change le prix et puis ensuite on voit ce qui se passe, quoi. Et le dernier point qui est important aussi à prévoir dès le départ, c'est l'analyse post-lancement. C'est-à-dire que tu vas avoir des effets directs, donc ta LTV, ton revenu, ta marge, ton taux de conversion. Puis tu as aussi des effets indirects. Donc typiquement, si je reprends l'exemple de Care, jusqu'à maintenant, avant qu'on introduise un nouveau pricing, on avait des no-shows, c'est-à-dire des gens qui en fait bookaient des créneaux avec des médecins et qui ne venaient pas. Donc les no-shows, ça existe aussi pour la fourchette. J'imagine que Fabrice aurait pu t'en parler. Donc sur plein de business, il y a des no-shows. En introduisant des frais de service et donc en faisant payer des frais supplémentaires, on a énormément baissé le taux de no-show, ce qui a augmenté la satisfaction des médecins. Les médecins étaient payés quand les patients ne venaient pas. Donc du coup, comme il y a moins de patients qui ne viennent pas, il y a moins de manque à gagner où tu payes les médecins pour rien. Donc tu as un double effet vertueux et en récupération de revenus directs. Et en récupération de revenus indirects.
Ok, d'où le fait encore ici que tu peux gagner sur tous les tableaux si tu te prépares bien cette stratégie.
Exactement.
Ok.
Et donc il faut dès le départ, on va dire, penser à mesurer ces effets collatéraux. Donc toi, nous typiquement avec l'équipe data, on avait bien prévu tous les dashboards pour pouvoir suivre post-lancement, pas uniquement le revenu direct généré par le projet, mais aussi tout l'impact sur l'écosystème.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.